الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. Bien, vous avez pu le voir dans le plan qui vous a été donné. C'est un cours d'approche sur la question de la scène internationale. Et vous allez vous rendre compte, bien entendu, qu'il y a un certain nombre d'échos par rapport à un certain nombre de chose que vous avez pu entendre de ma bouche par ailleurs. Et je vous propose donc que l'on approche ce sujet en 5 parties. Ces 5 parties étant d'abord justement à partir de la scène internationale, de nous poser la question de savoir comment nous-mêmes, musulmanes et musulmans, et même d'ailleurs, au-delà de simplement la communauté musulmane, comment nous avons à réagir aux situations internationales. Puis ensuite, les 4 autres parties, nous y viendrons respectivement. La première des choses, c'est de s'arrêter un petit moment sur ce que veut dire ce concept, cette idée de scène internationale. Et en même temps de se rendre compte que cela a un impact, un grand impact, sur la réalité de l'islam et des musulmans en Europe et en particulier en France. La scène internationale, c'est sur le plan politique, comme sur le plan économique, comme sur le plan social, tous les événements qui interviennent dans le monde, à l'extérieur de l'Europe, mais ce peut être également plus largement en Europe. Et ces événements sont les événements qui peuvent d'une façon ou d'une autre influencer ou infléchir la conscience internationale, l'opinion internationale et les choix des uns et des autres. Cette scène internationale, elle a une très très grande importance pour nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmanes et beaucoup de musulmans sont perçus par le prisme non pas de ce qu'ils font là où ils se trouvent, mais par ce que d'autres font là où eux ne se trouvent pas. En d'autres termes, ce sont les événements qui peuvent avoir lieu en Algérie aujourd'hui, en Afghanistan, en Palestine, partout où des musulmans sont présents et où un événement peut mettre en évidence la particularité de leur présence, on s'aperçoit que cela a une influence. Pourquoi ? La scène internationale est entrée dans l'espace privé des gens. Elle est chez eux dans leur salon, elle est en face d'eux à la télévision. La scène internationale, c'est effectivement quelque chose que l'on interprète. Ce sont des événements sur lesquels on fait des commentaires. C'est une sorte de paysage sur lequel on donne ses impressions. Cette scène internationale, elle nous intéresse parce qu'on ne pourra pas, wallahu a'lam, changer et évoluer et avancer en tant que musulmans vivant en Europe et jouer notre rôle si nous n'en faisons pas un des éléments de notre discours en tant que musulmans vivant en Europe. Et vous allez savoir pourquoi je le dis avec beaucoup de force. Je le dis également avec beaucoup de force parce que beaucoup d'entre nous, j'aurai l'occasion d'y revenir, ont manifesté par rapport à la scène internationale une sorte de ce que j'appellerais une frilosité, une crainte, une peur. Tant il est vrai que l'on a réussi dans certaines officines ici en France et ailleurs en Europe à développer une crainte chez les musulmans de dire ou de dénoncer qu'un certain nombre de musulmans ont développé en eux-mêmes une espèce de petit malaise à s'exprimer. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit détour par ces considérations. Première des choses pour nous, qui concerne le rôle des musulmans en Europe par rapport à cette scène internationale, repose sur cinq principes. Cinq principes. Le premier de ces principes, c'est que, pour nous, nous sommes des témoins de la justice. Et ce n'est pas pour des intérêts que nous avons à témoigner ou à dénoncer, c'est pour dire avec force et détermination que aussi longtemps qu'il y aura des musulmans et des musulmanes sur la terre, il y aura une voix qui dira qu'en face de l'injustice, il y aura une résistance. Il y aura une résistance et il y aura la nécessité, la compréhension profonde qu'il y a un effort. Le sens littéral du terme « djihad », contrairement à tout ce qu'on nous dit ailleurs sur ce que c'est que ce terme, à tel point que certains n'osent plus utiliser ce terme, mais ce n'est pas parce que des gens l'utilisent mal qu'il ne faut plus l'utiliser. Le terme « djihad » est essentiel à l'islam. Il est la philosophie fondamentale de l'islam. Il est de rappeler qu'aussitôt que tu as dit « la ilaha illallah », tu comprennes qu'au moment où tu as dit « Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammadun Rasulullah » et que Muhammad a.s.w. est son envoyé, tu comprends que toute ta vie se transforme non pas simplement en dépositaire de la foi, mais en personne qui comprend que sa vie est fondée, orientée, enracinée dans l'effort, à tous les niveaux. Dans ce que nous venons d'entendre maintenant, bien entendu, par rapport à l'akhlaq, c'est-à-dire par rapport au bon comportement, mais beaucoup plus généralement, bien sûr, sur notre spiritualité, sur notre bon comportement, sur notre intelligence, sur notre dispositif de réflexion quant à la politique, quant à l'économie. Un effort permanent et déterminé. Eh bien, au nom de notre foi, inna Allah ya'muru bil 'adl, Allah subhanahu wa ta'ala commande la justice. Et comme il commande la justice, il faut s'en porter témoignage au nom de ta foi. Dès que tu as dit la shahada, dès que tu portes le témoignage, tu sais que devant la conscience humaine, tu dois défendre et rappeler les hommes à l'ordre de la justice. Ça, c'est une chose qui est importante, comme est importante le rappel coranique. « Ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. » Ô vous qui portez la foi, tenez-vous fermement comme témoin devant Dieu, tenez-vous fermement à la justice comme témoin devant Dieu. « Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'adilu, a'adilu huwa aqrabu littaqwa, wa attaqullah. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et que la haine d'un peuple... » Jusqu'à la haine d'un peuple ne vous fasse pas et ne vous pousse pas à devenir injuste. Soyez juste, car ceci est plus proche de la piété ou de la conscience pieuse, la conscience de Dieu. Soyez des êtres de la conscience pieuse, n'est-ce pas? Même la haine d'un peuple ne peut pas te permettre de faire en sorte, par leurs agissements donc, parce que nous, ce qui fait qu'un peuple peut nous amener à développer en nous une haine une haine de ce qu'il fait, non pas de ce qu'il est, n'est-ce pas ? De ce qu'il fait, on peut haïr ce que fait quelqu'un, en continuant à aimer ce qu'il est, on fera toujours en islam la différence. Tous les ahkam en islam sont sur les actes, ne sont pas sur les êtres. On juge un acte, on ne juge pas définitivement un être, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Eh bien, même ce que fait un peuple qui pourrait développer en toi la pire, enfin, la plus profonde des révoltes, ne peut pas cautionner ton injustice. Au nom de ta foi, ta raison l'emporte sur ta passion. Dans ton évaluation, et ça j'en dirai un mot, même par rapport à un certain nombre d'entre nous, sur ce qu'ils peuvent parfois dire sur d'autres peuples et d'autres traditions. La deuxième des choses pour les musulmans vivant en Europe, c'est qu'une fois qu'ils ont compris qu'au nom de leur foi, ils doivent se tenir fermement à la justice, même parfois contre eux-mêmes, parce que dans le verset parallèle, l'autre justement, « Ya yuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada » Non, ça c'était celui-ci. « Ya yuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqis shuhada lillah »« Walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima » Ô vous qui portez la foi, tenez-vous fermement au témoignage de Dieu dans la justice, que ce soit à votre propre détriment, à celui de vos parents ou des proches, que la personne soit riche ou pauvre, car Dieu a la préséance sur les deux, que le riche ou le pauvre. Donc des formules qui sont soit dans Surat al-Nisa, ici au Surat al-Ma'ida, donc la sourate des femmes ou la sourate de la table servie, qui nous rappelle à une détermination pour la justice. Et quand nous avons compris ceci, nous comprenons qu'il y a ensuite, alors après, un rôle fondamental pour les musulmans vivant en Europe, qui, immédiatement, quand ils ont compris ceci, comprennent que tout espace de liberté qu'il leur est donné se transforme en espace de responsabilité devant Dieu. Et qu'aujourd'hui, la responsabilité, le rôle des musulmans d'Europe par rapport à cette question, c'est de reconnaître une chose, c'est qu'ils ont, par rapport à bien d'autres de leurs frères et de leurs sœurs, la liberté de pouvoir penser. Aujourd'hui, en Europe, vous ne pourrez pas dire, aucun d'entre vous ici dans cette salle ne pourra dire, que penser est considéré comme un délit ici. Personne ne vous empêche de penser et de réfléchir. Et il y a des conditions objectives de la pensée. Vous savez ce que sont ces conditions objectives de la pensée ? Les conditions objectives de la pensée sont le fait qu'aujourd'hui, 80% de la communauté musulmane sur le plan international vit dans une société de quasi-pauvreté et de misère. Et que plus vous êtes dans la misère et plus vous êtes dans la pauvreté, plus vous pensez mal ou difficilement, en tout cas, n'est-ce pas ? Le ventre vide ne permet pas une pensée sereine. Et quand vous réalisez, malgré tous les problèmes que vous avez ici en France, pour certains avec des problèmes financiers, avec des problèmes qui rendent difficile la fin du mois, vous faites partie des 80% de la communauté musulmane qui est privilégiée. C'est-à-dire que, parmi tous ceux qui sont dans le monde dans des situations de pauvreté, d'analphabétisme, vous qui êtes en France, vous devez vous rendre compte du don qui vous est fait de pouvoir penser parce que le contexte vous le permet. Bien sûr, pour certains, de façon beaucoup plus difficile que d'autres. Ne le nions pas, et nous savons que pour certains, c'est très difficile le quotidien qu'ils vivent en France. Mais attention à ne pas trouver des circonstances atténuantes à tout. Disons moi à ma situation, non, vous avez une liberté de penser, vous avez dans ce pays qui est le vôtre ici, la possibilité ne serait-ce que de venir écouter un cours un vendredi soir, quand dans tant d'autres pays, un tel cours n'aurait jamais lieu. Parce que penser là-bas est un délit, parmi les pays qui sont majoritairement musulmans, vous le savez. Bien, la liberté de penser, c'est en islam la liberté, une certaine aussi responsabilité que nous avons devant Dieu. Je le rappelle, très souvent, dans ces cours, vous avez beaucoup plus que d'autres sur la terre, des sources d'informations extrêmement importantes. Certes, vous pouvez vous arrêter, comme on l'a souvent dit, au journal télévisé de 19h30 ou de 20h. Ça, c'est quand on est paresseux. Mais pour qui a envie de s'informer, il a différentes sources d'information. Et quand tu peux savoir par différentes sources, tu deviens responsable de ton information. Et ça, vous ne pourrez pas dire non plus. Devant Dieu, le jour du jugement dernier, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Parce que vraiment, aujourd'hui, dans le monde, pour ne pas savoir ce qui se passe, faut vraiment fermer les yeux, se boucher les oreilles et vivre dans un vase clos. On le sait par des informations, mais on peut approfondir ces informations. Également une autre chose qui est importante. J'aimerais que vous vous en rendiez compte parce que vous ne vous rendez pas compte. Depuis que vous êtes arrivé ici, et souvent je rencontre des frères et des sœurs qui ont des réunions, ils ne savent pas une chose qui est quand même une ni'ma. C'est la possibilité qu'ils ont ici, là où ils se trouvent, de rencontrer d'autres êtres humains. C'est-à-dire de rencontrer un frère ou une sœur avec pas mal de facilité, de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément de la communauté musulmane, ne sont pas forcément musulmans. L'interaction avec les gens pour donner et prendre de l'information, discuter, échanger des idées. Vous ne vous rendez pas compte, néanmoins que c'est. Je reviens là de rencontres avec des gens, j'en rencontre sur le terrain, tu donnes, tu prends, tu discutes, t'es proche avec les gens, ils nuancent ta pensée, ils te permettent de balancer, de te dire attention, t'as peut-être pas toutes les informations. Ce type de contact-là, on ne l'a pas partout dans le monde. J'aimerais que vous vous rendiez compte de ça. On n'a pas la possibilité d'avoir un frère, une sœur, une communauté avec laquelle on peut entrer en interaction. Certes, on ne le fait pas assez. Mais nous, on ne s'en rend même pas compte de la capacité qui nous est donnée de pouvoir entrer dans ce dialogue-là. On fait des réunions, sur des réunions, sur des réunions. On ne sait même pas quelle chance l'on a devant Allah subhanahu wa ta'ala et on doit le remercier pour ça d'en avoir une déjà. Parce que chez certains, ils ne peuvent même pas, ils sont dans une telle situation, même de répression terrible que une. Parfois, pour certains, une réunion, c'est une réunion de trop. Vous ne devez pas être là à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala décide de ces choses-là, mais c'est vrai que ceci, il faut que vous en rendiez compte. Quand on a compris ceci, mon frère, ma sœur, devant Dieu, ton rôle comme musulman et comme musulman européen ou vivant en Europe, au nom des principes qui sont édictés par l'islam, au nom du fait que tu as une responsabilité importante parce qu'on te donne la liberté de penser, au nom du fait également que tu as des sources d'informations que tu peux aller visiter, au nom du fait également que tu as des êtres humains dans la proximité, eh bien tu dois comprendre que tu as un rôle très important par rapport à la scène internationale. Parce qu'un jour, tu dois prendre conscience que si par rapport à ce qui se passe dans le monde, les musulmans qui vivent en Europe ne disent rien, alors qui va expliquer? Qui va aujourd'hui pouvoir faire entendre une voix dans un espace de liberté qui dise « Vous faites erreur, il faut lire ceci avec plus d'attention, il faut nuancer ce point de vue. Notre responsabilité est fondamentale. Elle est même programmée. » Aussi sûr que je vous vois, je sais devant Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne sommes pas là par hasard. Que peut-être notre présence est la présence de personnes qui doivent bien comprendre ces cinq principes-là. C'est ce que je viens de mettre en évidence qui sont les principes de ceux qui doivent porter une voix en 1999 comme pour l'avenir ici en Europe. C'est notre rôle important, celui qui fait qu'un jour il ne pourra pas... Un de nos frères ou une de nos sœurs ailleurs dans le monde ne viendra pas nous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait de la liberté de penser qui t'était donnée ? Qu'est-ce que tu as fait de la liberté d'information ? Qu'est-ce que tu as fait des rencontres ? Qu'est-ce que tu as fait des principes de l'islam ?» Dès qu'on a compris ceci, on entre dans une exigence sur la scène internationale, une double exigence. Nous avons, et c'est le deuxième point, à comprendre et à expliquer. Alors, la première des choses que j'aimerais mettre en évidence, c'est que je ne suis pas en train de parler de la scène internationale de façon sélective. Parce que malheureusement, il y a un certain nombre de musulmans et de musulmanes qui pensent que la scène internationale, c'est uniquement ce qui concerne les musulmans. Ils diront tout sur la Bosnie, ils se tiendront silencieux par rapport à l'horreur du Rwanda. Ils diront tout sur ce qui se passe en Palestine, quel cas ils ont raison, et se tairont en face de Pinochet. Nous avons une conscience de justice en face de Pinochet comme en face des tortionnaires israéliens. Nous avons la même voix. Aux tortionnaires, nous élevons la voix de la résistance. Il n'y a pas de dictateur acceptable. Et si nous disons qu'il n'y a pas de dictateur acceptable, il ne faut pas commencer à avoir une pensée sélective. Donc je vous parle d'une conscience internationale. Et nous serons d'autant plus respectés dans les principes qui sont les nôtres qu'on aura bien compris ceci. Il y a 8 versets dans le Coran qui viennent innocenter un juif et accuser un musulman, qui essayait de se faire passer pour l'innocent et de dire, comme on n'aime pas les juifs, ça doit passer avec eux. Puisqu'on ne les aime pas, c'est eux les coupables. On n'a pas de ça en islam. Dans ton texte révélé dans Surat An-Nisa, 8 versets viennent confirmer le fait que ce n'est pas le juif qui est coupable, mais c'est le musulman. Donc on a une voie où on ne peut pas, nous, faire de la sélection dans la dénonciation. Mais ça, les musulmans d'Europe, ils n'ont pas encore compris ça. Ils ont, eux, un regard sélectif. Et ils reprochent à leurs partenaires, eux, d'avoir un regard sélectif. Mais on peut tous les deux avoir tort, ça ne donne raison à personne. Deuxième élément, donc, qu'est-ce que c'est que comprendre une situation? Et là, permettez-moi, chers frères et chères sœurs, de vous renvoyer à vos responsabilités. Vient un jour où comprendre, c'est dépasser l'espèce de superficialité affective que nous développons. Vous savez ce que c'est la superficialité affective? C'est effectivement un certain nombre de nos frères et de nos sœurs qui réagissent ponctuellement, de façon spécifique, de façon épidermique. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, c'est pas possible, on peut pas. Et alors, il y a une énorme émotion qui sort et c'est, on s'en tient à ça. Mais ça, c'est pas de la compréhension. C'est bien que tu réagisses avec ton cœur, mais ce n'est pas suffisant de t'arrêter à ton cœur. Parce que les frères et les sœurs et les êtres humains qui sont tes frères en humanité, ils attendent autre chose que simplement un petit coup de cœur que tu as ce soir et que tu oublieras demain. Ils attendent de toi l'humanité qui est la tienne. Comprends avec ta tête. Il faut comprendre des situations internationales. Et nous, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons en Europe, c'est absolument incroyable de voir des frères et des sœurs qui sont systématiquement à la surface de leur sensibilité et jamais dans la profondeur de leur intelligence. Ils n'analysent pas, ils ne comprennent pas. Il y a eu quelque chose quelque part et c'est un scandale, et puis ensuite on oublie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un Coran qui nous rappelle sa présence dans la profondeur de la raison et de la conscience, pas la surface du cœur. Et la profondeur du cœur, c'est quand tu as un cœur qui s'appuie sur une intelligence qui approfondit les choses. Quand il nous est dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama », ceux qui craignent Dieu parmi ses serviteurs, ceux qui le craignent le plus, ce sont les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu sais, plus tu approfondis avec ton intelligence, plus tu augmentes ta foi. Nous, on n'a pas une sensibilité de la surface, on a une sensibilité de la profondeur avec la compréhension. Plus on comprend, mieux on croit. Ce que je viens de vous dire en une phrase, c'est contraire à 15 siècles de christianisme. Où on pensait que plus tu sais, moins tu crois. Ou plus mal tu crois. Nous, chez nous, ça n'a jamais existé, ceci. Ça ne veut pas dire que le christianisme n'ait pas produit autre chose, bien sûr qu'il a produit, mais l'histoire du christianisme a mis la raison contre la foi. Et nous, même dans l'information, même dans l'actualité, même dans la scène internationale, on est exactement comme des savants. On essaye de comprendre. On développe une pensée qui se construit, chacun à son niveau, mais on n'est pas à la surface de ses sentiments, on est dans la profondeur de l'intelligence. Et comprendre une situation, une scène internationale, qu'est-ce que c'est? En tout cas, 4 domaines. Une compréhension de l'histoire. De l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut, quand on analyse quelque chose qui se passe dans un pays, avoir des éléments d'histoire. Faire un peu un travail historique. Avoir aujourd'hui des musulmans en Europe qui aient un sens de l'histoire, qui n'oublient pas. Comme parfois on voit certains de nos frères en Algérie qui pensaient que ce qui s'est passé en Algérie, c'est la première fois que ça se passait sur la Terre. Mais non, ce qui s'est passé en Algérie, c'était passé il y a 20 ans, c'est passé il y a 30 ans dans d'autres pays. Simplement, tu n'as pas de mémoire. Comment tu veux comprendre quand tu perds la mémoire? On te refait 3 fois le même coup et tu tombes 3 fois dans le piège parce que tu n'as pas de mémoire. Parce que tu fais pas l'effort de comprendre. Alors je peux te mettre trois fois le même piège. Le minimum pour évoluer, c'est de se rappeler. La question de la mémoire. La question de l'analyse politique, de l'analyse véritablement d'une situation politique. Nous sommes, excusez-moi, je suis obligé de faire ce constat, nous sommes d'une superficialité en matière de politique. Il suffit que quelqu'un dise « je suis musulman » pour qu'on lui donne crédit. Comme s'il suffisait que quelqu'un dise « je suis musulman » pour qu'il dise la vérité. C'est Saddam Hussein qui ment à la surface de la terre entière, qui se fait filmer en train de prier, et certains qui se disent « Masha'Allah ». Je ne sais pas si sa prière elle est acceptée, mais je sais que ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait pendant et ce qu'il continue à faire est inacceptable et il faut le dénoncer. Parce que je ne suis pas et je ne veux pas qu'il me manque de respect à ce point, qu'il lui suffise d'une télévision et d'une prière pour me tromper. Pourquoi ? Parce que je suis à la surface de ma sensibilité et puis que ça m'émeut de voir quelqu'un faire ça. Quand 3 jours avant, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, à une table, il a pris le pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. Le même. Et les musulmans, Saddam Hussein, alors il tient tête aux Américains, tu parles. Ils l'ont fait, ils l'ont défait, et ils l'entretiennent. Et nous, Rajoul, ça vous fait rire, ça ne fait pas rire 5 millions d'Irakiens. Je vous promets que ça ne les fait pas rire. Eh bien, la dimension politique, la dimension économique, un tout petit peu, il y a des frères, des sœurs qui étudient, mais un peu, avoir un peu de savoir, essayer de prendre, de s'intéresser, il ne s'agit pas de devenir des économistes, mais de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas l'économie aujourd'hui, vous ne pouvez même pas faire l'analyse de ce qui se passe en Algérie. Si vous n'avez pas quelques éléments de ce qu'est en train de faire le Fonds monétaire international en Algérie, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, ce qui est en train de mener l'Algérie, ce n'est pas simplement des décisions politiques. Ça, c'est les guirlandes, pour qu'on ait l'impression que c'est libre. Mais ça ne se passe pas là. Donc il faut avoir un tout petit peu d'éléments. 1, d'histoire. 2, de politique. 3, d'économie. De culture aussi. On connaît un pays dans sa culture et il suffit pas, par exemple, les analyses sommaires de tellement de musulmans sur ce qu'est l'Iran. Il y en a certains, ils ont entendu, c'est des chiites, donc c'est terminé, ça n'existe plus. Ou alors ce sont des musulmans, alors tout est beau. Comme dans certains, et certains, ils vont dans des pays, ils vont voir des ministres, ils reviennent et ils te disent, ah alors ce pays, t'as tout qui va bien. Mais t'es pas allé voir le pays, t'es allé voir une affiche publicitaire. Quand tu vas voir le ministre d'un pays, c'est une affiche publicitaire, il va par lui commencer à critiquer ce qu'il fait. Donc va sur le terrain. Et ça aussi, c'est une réalité qui est véritablement à étudier. Comme, bien entendu, toute la dimension religieuse. Pourquoi est-ce que je vous donne simplement ces petits éléments? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous donne ces éléments-là parce qu'aujourd'hui, ça suffit, ces analyses à l'emporte-pièce, ces analyses sentimentalistes. Aujourd'hui, on a besoin de frères et de sœurs qui, depuis l'Europe, travaillent un peu. Assieds-toi, ton djihad à toi, ton effort à toi, l'approfondissement de ta foi, c'est essayer de comprendre l'histoire d'un pays. N'essaye pas de comprendre l'histoire de tous les pays du monde, mais peut-être un ou deux, là où tu peux vraiment te comprendre. L'analyse de l'histoire, les enjeux politiques, les enjeux géostratégiques, les enjeux économiques, les enjeux culturels et religieux, tout ça, ça s'étudie. Mais vous ne pouvez pas avoir tant de privilèges en Europe et être aussi paresseux de ces privilèges. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Parce que si nous, on n'est pas reçus, alors qui va parler? Qui va dire? Qui va porter une voix quelque part? Avec cette énorme caricature. Mais vous vous rendez compte de ce que vous entendez à la télévision, comme on prend les gens pour des idiots? Mais qu'est-ce qu'il est, celui qui voit qu'on prend les gens pour des idiots et qui se tait devant l'idiotie? Devant Dieu, il est quoi? Qu'est-ce qu'il pourra dire? Qu'est-ce qu'il pourra dire le jour du jugement dernier? On nous a répondu l'idiotie, j'ai été le silencieux dans l'idiotie. C'est pas possible. Notre silence est une complicité. Mais avant même de parler, chers frères, ce que je propose à certains, si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vas faire plus de mal en parlant, en ne sachant pas de quoi tu parles, que de te taire. Alors tais-toi si tu ne sais pas. Et ne commence pas à dire des choses qui sont des contre-vérités dans l'émotion. Parce qu'il y en a certains dans l'émotion. Alors vraiment, tout est dit, et c'est dit n'importe comment. Le deuxième volet d'expliquer, c'est d'expliquer. Et expliquer, ça c'est ce que nous avons à faire. Nous avons un véritable travail d'explication à faire. Ce travail d'explication, nous l'avons à faire autour de nous. À partir du moment où on comprend, je vous promets que si vous faites ce travail, vous avez plein d'interlocuteurs, des intellectuels qui ne demandent, il y en a tellement qui se rendent compte qu'on leur ment. Vous ne vous rendez pas compte le traumatisme que ce fut la guerre du Golfe. Aux yeux et au nez de millions de personnes, l'État, le département militaire des États-Unis a payé une agence de publicité, de relations publiques pour mettre en scène le meurtre d'enfants dans une pouponnière. C'est ce qui a fait changer l'opinion publique américaine en disant feu vert pour aller massacrer des peuples, le peuple irakien. Une agence de relations publiques qui a fait venir la fille de l'ambassadeur du Koweït pleurer en disant « ils sont venus, ils ont arraché les trucs de la respiration pour les pouponnières et ils ont tué ». C'était un montage de A à Z, dénoncé par la télévision canadienne sur la meilleure émission de l'année, 30 minutes, les mensonges de la guerre du Golfe. C'est cette émission-là où il montrait comment le taux d'acceptation de la population américaine pour une intervention américaine s'est transformé. Avec cette émission-là, 30 minutes, des milliers de morts sur un mensonge. Les gens, ils se sont rendus compte combien j'ai vu de journalistes qui se disent, tu sais, la guerre du Golfe, ça a été un traumatisme. On nous a menti, puis il y avait Timmy Sohara aussi, toutes ces choses-là. Il y a plein de gens qui sentent que ça... Mais alors, où ils sont ceux qui vont expliquer en leur disant « Attention, on vous l'a fait une fois, on vous l'a fait deux fois, et tant que vous êtes crédule, on vous la fera 100 fois. » Mais si on n'est pas là pour dire « Attention, on est en train de continuer à faire ceci, comme par exemple sur l'Algérie ou comme sur tant d'autres pays, eh bien, il faut que l'on explique. Mais il faut qu'il y ait des voix, des personnes qui se... » Alors, je ne demande pas à tous ici dans la salle, chacun à son domaine, mais en tout cas qu'aujourd'hui, on développe dans nos associations, personnellement, cette dimension de la responsabilité du discours qui est le nôtre. C'est quoi? C'est effectivement de pouvoir maintenant tenir aussi un certain type de discours qui soit ce qui est le parler vrai. Qu'est-ce que c'est le parler vrai? Le parler vrai, c'est à partir d'un certain moment, assumer ce que nous sommes en tant que musulmans et porter une voix qui soit une vraie voix de liberté et de vérité. Comment ça se fait? Comment se fait-il en Europe que nous voyons en public, en direct à la télévision, ce qui est en train de se passer en Afghanistan et qu'il n'y ait pas des voix musulmanes pour dénoncer les talibans et tous ceux qui sont derrière les talibans? Comment se fait-il que des personnes qui se disent de notre religion fassent venir une télévision étrangère et disent « Regardez, filmez-nous » et coupent la main d'un voleur, d'un pauvre voleur afghan, en public et à la télévision, en riant au moment où ils coupent la main et en nous faisant croire que ceci est l'islam, filmé par toutes les télévisions internationales? Comment c'est possible que des voix musulmanes se taisent en disant « Ça c'est l'islam? Est-ce que toi tu peux dire que ça c'est l'islam ?» Un pauvre bougre afghan et le sourire de ses tortionnaires? Et on ne s'arrête pas là. On dit ça n'est pas l'islam. Mais j'aimerais savoir qui est derrière les talibans. Comment se fait-il que l'agence de services secrets pakistanais soutient les talibans? Qui soutient l'agence pakistanaise? L'Arabie Saoudite. Qui soutient l'Arabie Saoudite? Les Américains. Qui soutient ce qui est en train de se faire? Les Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a un oléoduc qui va traverser l'Afghanistan et leur faire parvenir aux ressources pétrolières en Asie centrale. Dites ça aussi. Parce que le département d'État américain dit, vous savez, les talibans sont plus anti-modernité qu'anti-occidentaux. Alors, on va comprendre. Ils sont plus anti-modernes. Alors, comme ils ne sont pas tellement occidentaux, vas-y, tant qu'il y a du pétrole, tant qu'il y a du pétrole. Il faut qu'on tienne aussi ce discours. Qui va le tenir? Alors, aussi de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à
à l'Arabie Saoudite. À un moment donné, moi j'ai beaucoup de respect pour un énorme, grand nombre de nos frères qui sont allés se former là-bas et qui reviennent avec une idée de dimension de la foi et qui veulent pratiquer. Et parfois, ils sont véritablement pour moi des bons rappels parce qu'ils disent attention, il y a des limites. Alhamdoulilah. Tout ce que vous avez pu prendre là-bas de science, tout ceci, on en a besoin et c'est bien. Mais il y en a certains qui se disent, après leur formation, il ne faut surtout pas parler de ce pays et qui en défend, et qui pensent qu'en ne faisant pas de la politique, ou en ne parlant pas de politique, ils ne font pas de politique. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Dès que tu te tais sur la politique, tu es déjà un politicien. Parce que ton silence est un soutien. Ton silence est un soutien. Et là, aujourd'hui, on est en train de développer deux choses qu'on encourage en Europe. Des groupes qui te disent le halal, le haram, tais-toi sur tout ce qui concerne les pays, et donc on les soutient par notre silence, et d'autres qui sont des petites sectes, comme vous avez les Ahbash maintenant, qui sont pilotés par des gouvernements comme la Syrie à coups de milliers, et qui sont là uniquement pour mettre et semer la zizanie. Les uns sèment la zizanie, les autres te disent boucle-la. On est entre ceux qui nous gênent par la zizanie et les autres, tais-toi. Et ben nous, on va dire non. Devant Dieu, on veut l'unité, mais on ne veut pas le silence dans l'unité. Et on doit aussi porter un discours qui soit clair. 1979, des personnes sont insurgées à la Mecque. On nous en a annoncé 163, ils seront exécutés, présentés à la télévision saoudienne. La réalité, c'est que ce qui est sorti en deuxième page du Monde, c'est qu'ils étaient plusieurs milliers, au bas mot 12 000. Le capitaine Baril est parti avec un groupe depuis la France. Il est devenu musulman, converti par les autorités saoudiennes pendant une semaine. Il est allé à la Mecque. Ils ont mis de l'eau dans les catacombes de la Mecque et ils ont électrifié l'eau. 10 000 morts au bas mot. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Monde et la communauté musulmane, silence. 1973. L'argent des pétrodollars est mis dans les banques occidentales pour servir à la dette des pays du tiers-monde. Au lieu de donner l'argent directement aux pays musulmans, sans dette, sans riba, sans intérêt, on la met dans les banques occidentales. Résultat des courses des millions de dettes des pays en voie de développement. Vous savez combien fait de morts la dette chaque jour en moyenne? 10 000 par jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Suzanne George dans son ouvrage sur la dette qu'elle a écrit il y a quelques années en mettant en évidence le fait que les gouvernements musulmans, s'ils avaient appliqué l'islam, n'auraient pas provoqué ce séisme. Ça, c'est la réalité, comme par exemple la réalité de ces instruments aujourd'hui internationaux, le Fonds monétaire international. 10 ans aujourd'hui, en 1999, à l'heure où des massacres se perpétuent encore en Algérie, que c'est un excellent élève du programme d'ajustement structurel. Et nous, il faut qu'on dise une chose. Les groupuscules armés qui tuent, nous les condamnons sans hésitation. C'est pas l'islam. Mais on veut entendre tous ceux qui sont de justice dire, avec la plus grande des déterminations, que ce pouvoir et les gens et la mafia qui est derrière ce pouvoir, il faut les condamner tous, un après l'autre. Pourquoi ? Parce que depuis 17 ans, la situation économique de l'Algérie n'a jamais été aussi bonne et que, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, les puits de pétrole, tous les intérêts strictement économiques n'ont jamais été touchés. Que le plus stupide des terroristes, c'est la première chose qu'il irait toucher. Et non, là, il n'y a rien. Qui est en train de faire ce qui se passe en Algérie? Qu'on condamne tous ceux qui doivent être condamnés, les groupuscules, mais ce pouvoir également. Comme il faut dire aujourd'hui, quand on nous présente la Tunisie comme étant le modèle de la démocratie, qu'il y a 20 000 prisonniers d'opinion politique, que le gouvernement est élu à 97%, et qu'on ne peut pas, nous présenter l'islam moderne de ces femmes que l'on dévoile pour dire « regardez les femmes » ou de ces institutions de droit de l'homme qui sont toutes à la solde du pouvoir. Parce que si tu n'es pas à la solde du pouvoir en Tunisie, tu fais pas long avant d'être en prison. C'est une population tellement sinistrée que quand quelqu'un te dit « salam alaikum » en Tunisie, tu sais même pas pourquoi il te le dit et qu'est-ce qu'il cherche. On en est arrivé là. La Tunisie, c'est un peuple sinistré, c'est un peuple qui est géré par un tortionnaire. Alors c'est peut-être pas aux Tunisiens qui sont ici et qui vont retourner chez eux de le dire. Mais c'est à la voix, à la conscience musulmane de dire à un moment donné, ça suffit. On va pas laisser dire que la Tunisie c'est un pays libéral. On va pas nous présenter la Turquie comme un pays libéral. On va pas nous présenter l'Arabie Saoudite comme un modèle. On va pas continuer. Et nous on va le dire avec la plus ferme des déterminations, mais il faut un discours qui soit pas un discours qui soit pas basé sur des faits. Il y a des faits. La dénonciation fondamentale à partir de 1992 de l'État d'Israël par Amnesty International, il faut que nous l'apportions aussi. La réalité, c'est que c'est un peuple qui est en train... On est en train... Nous, on ne sait qu'une chose. Quand il y a paix, il y a justice à côté. Quand il n'y a pas le mot justice à côté de paix, c'est pas une paix. C'est un peuple qui est sinistré. Là, vous savez que la torture est considérée comme légale en Israël, et que personne dit rien. Vous savez ce que c'est? C'est une torture de petite intensité. En fait, qu'est-ce que nous disent les policiers israéliens? On les secoue un peu. Aïwa. Et c'est légal. Et ils font venir des médecins pour savoir comment tu dois taper et torturer cet homme sans que ça se voit par la suite. La médecine au service de l'horreur. Pouvoir démocratique israéliens et les musulmans, rien. Et à nous, on va pas nous la faire. Jamais. De nous dire que quand on est anti-sioniste, on est antisémite. Nous sommes pour la plupart sémites. L'antisémitisme, nous nous levons contre. Jamais une voix musulmane ne doit cautionner ce qui s'est passé entre 1939-1945. C'est injuste, inhumain. Nous sommes contre l'extrême droite et contre tout ce qu'a fait Hitler. Mais c'est pas parce que nous sommes contre ceci qu'on nous tiendra la langue pour ce que fait le pouvoir sioniste. Aussi sûr que nous dirons et nous condamnerons l'antisémitisme sous toutes ses formes, parce qu'on ne rejette pas quelqu'un pour sa seule religion, de la même façon nous dirons, mais vous nous allez nous trouver partout où vous serez en Europe, à dire avec la plus ferme des déterminations, ce pouvoir-là est un pouvoir tortionnaire. Ça, il faut qu'on le dise, non? Alors, que les gens se réveillent un tout petit peu, pas sur la surface de leurs sentiments, mais véritablement avec un discours appuyé, construit, avec des sources, avec des références, je vous en ai donné quelques-unes. Je pense qu'il est important de ce point de vue-là que l'on se détermine. Rapidement, c'est ma conclusion, parce que vraiment il faut terminer. Ma conclusion, elle est celle-ci, et quand même c'est un des éléments sur lesquels je crois que nous devons beaucoup réfléchir, c'est l'indépendance politique et financière, qui est la seule façon, chers frères et chères sœurs, de réussir cette entreprise-là. Aujourd'hui, les musulmans d'Europe, ils doivent comprendre une chose. Si toi, tu es lié à un pouvoir, ça te regarde. Si tu es lié financièrement à un pouvoir, ça te regarde. Mais aujourd'hui, le discours musulman sur l'Europe, pour être en phase avec tout ce qui se passe dans le monde, il doit se fonder sur les deux dimensions. Indépendance politique, je ne me tiens et je ne suis soumis à aucun pouvoir. Le seul chose que je veux, c'est la justice en mon âme et conscience devant Dieu. Le pouvoir, j'en veux pas. Être soumis à un pouvoir, j'en veux pas. Et qu'on vienne pas d'un autre côté, parce que ce discours-là, beaucoup de gens en France disent qu'ils le veulent, même des autorités politiques, mais en même temps, ils les gênent. Ils les gênent. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il devait y avoir, aujourd'hui ou demain, une intervention à l'Institut du monde arabe sur la situation algérienne, avec un homme pour lequel j'ai un profond respect, qui s'appelle François Gèze, qui travaille aux éditions de la Découverte et qui dit sur l'Algérie des vérités. Il devait participer, et qu'est-ce qui se passe? Censure. Il ne doit pas parler. D'où ça vient la censure? De l'ambassade d'Algérie, qui dit, lui, on veut pas qu'il parle. Eh ben, nous, on est français, on est allemand, on est belge, on est suisse, on dit ça, ça va pas. Ça va pas du tout, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on est pour l'autonomie totale. Alors, on ne nous dit pas une chose et on fait le contraire, en nous disant, soyez autonome, mais derrière, attention, on ne veut pas que tu parles contre certains types de pouvoirs. Je suis français et au nom de ma conscience et de ma nationalité, je vais dénoncer toutes les dictatures. C'est le minimum qu'on puisse demander à un bon citoyen français et c'est le minimum que l'on sait être, la foi d'un bon musulman et d'une bonne musulmane. Et puis l'indépendance financière, parce qu'il n'y a pas de finances gratuites. Avec une seule condition, certains sont, il ne faut pas prendre d'argent. Moi, je vais vous dire une chose. À partir du moment où vous êtes dans une relation, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous payez à l'entrée? Parce que tout ce qui est en train de se faire maintenant à partir du terrain, c'est prendre 30 francs de chacun pour n'attendre rien d'un gouvernement. C'est autofinancer tout ce qu'on fait. Tout ce qu'il faut faire maintenant, il faut l'autofinancer. Il faut demander de l'argent à personne pour qu'on soit libre. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, pas qu'il y en ait un qui vienne dire, écoute, comme ça m'est arrivé dans un des colloques, tu viens, mais tu ne parles pas de ça. Alors je ne parle pas du tout, mon frère. Parce que si tu me fais venir pour que je cautionne par mon silence celui qui t'a payé, tu ne me demandes pas de parler, tu me demandes de cautionner. Je ne suis pas une caution pour n'importe qui. Et il faut développer cette dimension de l'autonomie financière, véritablement. L'autonomie financière, c'est capital qu'on y arrive en se disant une chose. Si quelqu'un veut te donner de l'argent, tu lui dis d'accord, peut-être tu veux me donner de l'argent, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de condition. Tu me donnes, je peux, alhamdoulilah. Mais tu ne viens pas me dire, tu fais ci, tu fais ça. Non, tu me donnes, c'est tout. Mais si tu me donnes de l'argent en me disant, tiens, une sadaqa, et dans ta tête, c'est pour que je me taise, écoute-moi mon frère, ce n'est pas une sadaqa, c'est du commerce. Il y a une différence entre une sadaqa et du commerce. Une sadaqa, c'est je te donne, tu fais ce que tu veux, tant que ça ne déplaît pas à Dieu. Le commerce, c'est j'achète ton silence. Et moi, je ne veux pas de commerce. Cette dimension-là, elle est l'avenir. Pensez-y, chers frères et chères sœurs, par rapport à, effectivement, le but de nos prochaines générations, c'est l'indépendance politique et financière. C'est une parole de vérité. C'est un travail que nous avons à faire en conscience. Qu'il me soit permis au moment... Mais vraiment, j'aimerais que vous y réfléchissiez pour que nous ne soyons pas par rapport à la scène internationale. Parce que toute la scène internationale influence ce qu'on dit sur l'islam en France. Il faut qu'il y ait des musulmans maintenant qui portent un discours clair, construit, qui travaillent sur leurs sources, qui ne font pas simplement de le pur émotif, mais qui défendent des choses. Et puis, le Marocain ne devra peut-être pas parler du Maroc, il pourra parler d'autre chose. Le Tunisien, il ne parlera pas de la Tunisie, il parlera d'autre chose. Mais il n'y a pas que des Tunisiens dans cette salle, il n'y a pas que des Marocains, il y a presque... un Suisse. Et donc, dans cette perspective-là, qu'on s'aide les uns les autres. Qu'on s'aide les uns les autres à dénoncer ce qui est en train de se passer, en sachant, mais une chose, sachez une chose, vos amis à l'extérieur, si tu parles à 4 personnes d'une situation dans le monde et que tu expliques un peu, ça fait 4 personnes. Et les amis des amis, ça fait des milliers. Et on est 5 millions en France. Je vous promets que si simplement les gens commençaient à expliquer, eh ben on pourrait changer une opinion. On est une opinion dans l'opinion. La télévision peut en être une, mais nos explications peuvent en être d'autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de chacun les efforts qu'il fera pour aider ses frères et ses sœurs, en humanité aussi, parce que j'ai dit que c'était aussi plus largement par rapport aux musulmans et aux non-musulmans, ce travail-là. Il y a une chose, il y a un papier qui vous a été donné, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est ce papier concernant les journées musulmanes communes en Europe francophone, c'est-à-dire que le 24 et le 25, il est demandé à toutes les associations musulmanes, on veut créer un événement qui ne soit pas une bombe, ou si c'est une bombe sur le plan symbolique, se présenter au public français localement, et c'est nous cette fois-ci qui décidons d'un événement en appelant toutes les associations localement à se présenter autour d'eux, conférences, portes ouvertes, expositions, vente de livres. Il y en a même qui prennent des fleurs et qui vont les donner aux gens. On est des musulmans parmi vous, on a envie de vivre dans la paix, dans la reconnaissance. Quelque chose sur quoi vous devriez réfléchir, que toutes les associations d'où que vous veniez, pensiez à faire un petit acte symbolique pour marquer votre présence positive de musulmans voulant être des partenaires dans la société française. Ça se passe en Belgique comme en Suisse romande. J'espère, Inch'Allah, qu'on trouvera des frères qui seront engagés à cela.